Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour le sixième podcast de la rédaction du Game Info. Aujourd'hui, nous vous offrons une nouvelle formule en compagnie de le tyran de Eras et de Mordren.
Salut, salut.
Salut.
Et on va commencer tout de suite par de l'actualité. Alors niveau actualité, on va d'abord parler du hack de PSN. Est-ce que quelqu'un veut en parler?
Moi. Alors donc pour ce qui serait pas encore au courant, s'il y en a, bah le PSN s'est fait hacker. Et donc il se trouve pour que se faire pardonner Sony dans sa grande mansuétude a décidé de lancer l'opération Welcome Back. Et donc qu'est-ce que c'est l'opération Welcome Back? C'est une opération où Sony va distribuer des jeux gratos. Donc merci les pirates en fait, j'ai envie de dire, parce que moi en fait j'en avais rien à foutre parce qu'il se trouve que la carte qui était enregistrée chez eux, la carte bleue, elle était expirée depuis belle lurette. Bon, par contre, c'est vrai, dommage pour ceux qui s'en font avoir, quoi. C'est ballot, hein.
Oui, genre moi, par exemple. Alors d'ailleurs, sur ces jeux qui sont offerts, alors, il me semble de mémoire qu'il y a l'add-on de Ratchet & Clank, Quest for Booty, il y a Infamous, il y a Little Big Planet, il y a Wiiput HD, c'est quoi le cinquième, je sais plus.
Aucune idée.
Il y a Little Big Planet, tu l'as dit.
On est bien renseigné. Et sur PSP, il y a Killzone Libération et le deuxième. Aucune idée. Bon, bref.
Il devait y avoir Poursuite Force.
Poursuite Force, ouais. D'accord. Donc, vous l'aurez deviné, c'est des jeux super récents.
Ouais.
Donc, encore une fois,
il était pas mauvais, Poursuite Force.
Oui, bah... non, mais surtout que c'est des vieux jeux. Par exemple, moi, tous les jeux proposés, soit je les ai déjà faits, soit c'est vraiment des petits jeux, quoi.
C'est ça. Bah, et c'est surtout moi, ça m'arrange parce que il se trouve que ma PS3, je l'ai achetée assez récemment en occasion et que donc, du coup, il y a des jeux que je voulais acheter que je vais avoir gratos, quoi. C'est... Merci les pirates, franchement, grâce à vous, j'ai des jeux gratos, c'est nickel.
Voilà. On va dire que ouais, l'opération de Sony, elle est surtout pour inciter les gens à revenir et aussi un peu se faire pardonner. On verra ce que ça donne par la suite, parce que les données bancaires, s'il y a eu effectivement vol, on n'en entendra parler que dans quelques mois, le temps qu'elles soient revendues, etc. Bref, affaire à suivre.
Enfin, quand même, là, ils sont déjà pris une class action aux États-Unis. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une class action, c'est dans le système américain, en fait, vu que ça coûte un peu cher de faire des procès, bah, les gens, ils se regroupent ensemble, ils font un gros procès, quoi. Mmh. Et donc, ils s'en sont pris une aux États-Unis, et il y en a une qui a été lancée au Canada, là.
Ouais, enfin, il disait, c'est des mouvements quand même assez opportunistes qui n'avaient pas grande chance de gagner le procès. Moi j'avais
ouais,
vu ça.
On attendra de voir les résultats.
Oui, ne nous engageons pas trop.
En plus, c'est pas que des histoires de cartes bancaires. Hein. Je veux dire, moi qui suis développeur dans la vraie vie, je peux vous dire que j'ai entendu des trucs. Il y a pas que les données privées, normalement elles doivent être aussi sécurisées, quoi. J'ai entendu ça, mais je suis tombé de ma chaise, quoi. J'ai fait putain, mais attends, Sony, ils font des erreurs, tu vois, l'encryptage des données personnelles, mais c'est le truc, on te pose ça en c'est des questions qu'on te pose quand tu présente tes projets, quoi, quand t'es étudiant, donc sérieux, quoi, j'ai halluciné, quoi, j'ai fait, mais c'est hallucinant, il y a vraiment, c'est à la limite qu'il soit fait hacker, bon, je veux dire, le gouvernement français se fait bien hacker ses sites web, donc ça, à la limite, voilà, bon, ça peut arriver, mais c'est surtout, il y a eu des erreurs au niveau de la sécurité, quoi, c'est tout, et ça, à mon avis, ne vendons pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ils risquent beaucoup sur ce coup-là, hein, parce qu'il y a vraiment eu une négligence.
Alors là que tu critiques, justement, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'à ton avis, ça aurait pu arriver à Nintendo? Enfin, sur Nintendo, il n'y a personne qui achète rien sur le WiiWare, c'est bien quoi. Le Xbox Live.
Il y a quoi à acheter chez Nintendo?
Le Xbox Live, on va dire, c'est plus sérieux. Bah,
il y a des codes amis.
Attends, franchement, je veux dire, il n'y a pas de raison que Microsoft soit plus en sécurité. Après, toute la question, c'est que, est-ce que Microsoft n'est pas aussi con que Sony et est-ce qu'ils ont sécurisé les données qui sont sur leur serveur? Parce que, à la limite, que les mecs arrivent à passer leur sécurité et que ils arrivent à choper les données encryptées, bon, on s'en fout, les données sont encryptées de toute façon. Mais là, le vrai souci, pour moi, c'est que chez Sony, les données n'étaient pas encryptées, c'est tout. C'est on peut leur pardonner, même s'ils ont géré ça avec les pieds, on est d'accord, mais on peut leur pardonner de s'être fait pirater à la limite. Mais c'est la négligence d'avoir sécurisé leurs données qui pose problème, quoi. Et après, bon, Microsoft, je sais pourquoi on parle de Microsoft, parce qu'ils font payer. Bon, je veux dire, Valve fait pas payer, je pense pas que ça soit moins sécurisé que chez Microsoft, quoi. Bon, là, c'est vraiment des questions de sécurité de base, quoi, qui n'ont pas été prises en compte chez Sony.
Enfin, en tout cas, si ça n'avait pas été pris en compte chez Microsoft avant, à mon avis, cette affaire les a fait réagir, hein. Ça c'est sûr.
Au moins,
encore heureux.
La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, maintenant, Sony s'en prend tellement plein la gueule que là, a priori, ils vont bien bosser pour sécuriser leur truc, quoi.
À mon avis, oui.
Le seul problème, à mon avis, c'est que s'ils espéraient faire payer un jour les gens, bon courage, hein.
Ah bah là, la réputation, oui, c'est surtout ça, hein.
Ah, c'est pour ça qu'ils ont fait don gracieusement de 30 jours de PlayStation Plus.
Oh mon dieu, ça a changé ma vie.
À tout le monde, quoi. Non, mais c'est juste histoire de dire, à regarder.
Attends, j'ai trop envie d'essayer le PlayStation Plus maintenant.
Hein. Je crois que je vais devenir accro, moi. 30 jours gratuits, après je pourrais plus m'en passer, quoi.
Ouais.
Donc, on faisait les éloges du WiiWare. WiiWare qui est accessible à partir d'une Wii. Et la Wii, justement, qui a baissé de prix. Et qui est devenu un prix de 144€, ce qui est plus que moitié scandaleux maintenant. Quelque chose à dire là-dessus?
C'est toujours aussi naze.
Mais, moi, je dirais juste que la GameCube est vendue moins cher, et pourtant, c'est la même chose.
Oh, ce troll! Oh mon dieu!
Non, et plus sérieusement, je pense que la baisse de prix, je sais pas si ça va faire réagir les personnes, mais vu le succès qu'a fait la Wii, toutes les personnes pourraient être intéressées et l'ont pris, non?
Ouais, non, mais quand on voit les scores de la machine, je veux dire, je sais pas s'ils vont trouver les moyens de la refourguer encore à quelqu'un, mais bon, là,
les les ventes baissaient quand même, hein, de la Wii.
Ouais, mais c'est de bonne guerre, il y a la nouvelle qui va bientôt être annoncée à l'E3, donc forcément... baisse de prix, ben tu vois, PlayStation fait la même chose avec sa PSP, la NGP arrive, la PSP a forcément baissé de prix. Donc bon, c'est habituel, et ça serait pas étonnant qu'il y ait des gens qui continuent à acheter parce qu'ils se disent « Ah tiens, là oui, j'en ai entendu parler, et il se trouve qu'elle est à moins de 150€, ben tiens, je vais peut-être aller l'acheter, quoi. » Le grand public, forcément, ça doit parler, tu vois.
D'accord. Donc, on va vite enchaîner, parce que là oui, après tout, hein, y a pas de quoi en parler pendant 2 heures, deuxième troll.
En plus, il faut dire que vu le catalogue mirifique qu'on a cette année sur Wii, franchement, on n'a pas à se plaindre, quoi.
Oui, bon, je crois qu'on va pas trop s'engager sur cette pente assez savonneuse, parce que... Ouais. Hein. Donc, je sais qu'il y avait une affaire en Suède dont Eras voulait nous parler. Eras, es-tu en vie? On ne t'entend plus.
Je suis là.
Parole à toi. Oui.
Il y a eu un petit problème, c'est sur Dead or Alive Dimensions, donc le dernier épisode de la série qui vient de sortir sur 3DS. Apparemment il est loin d'être mauvais et il a été interdit de vente, enfin il ne sortira pas en Suède. Alors pourquoi? Parce qu'il s'est fait, en fait il a pas été publié à cause de pédopornographie. Alors il a été attaqué pour ça.
Oh mon dieu.
Il a été attaqué pour ça. Justement
ils ont live.
pas tant que ça, j'ai envie de dire.
Ah non, c'est depuis l'épisode 2. En fait, Tecmo s'est fait attaquer, ils ont gagné le procès, sauf qu'ils avaient peur qu'on les réattaque, et donc ils ont pas sorti le jeu. Alors pourquoi, il semble que ce soit à cause du fait que Ayane ait été eu par Ayame alors qu'elle était mineure et qu'elle s'est fait violer. C'est passionnant, Dead or Alive. Hein.
Un scénario de toute beauté.
Ça, c'était dans le 2. Et donc, on sait pas exactement pourquoi ça y est. En plus, même selon Peggy, c'est 16 et plus, et il n'y a pas de contenu... même selon la norme Peggy, c'est pas jugé comme contenu sexuel. Donc c'est
Il y a juste des nichons en 3D, quoi, c'est tout.
Bah oui, mais bon... Non, mais de toute façon, j'y jouerai pas,
les gamins, il y a des films 12 plus, je peux te dire que c'est pire que ça.
Donc, on parlait d'interdiction, et là, j'ai envie de parler de notre petit coup de cœur chez nous, Game Info. Alors attention, une nouvelle très triste. Un monument du jeu vidéo va se voir face à de grandes difficultés. Vous savez qu'on aime bien le jeu d'Eric, meurtre sur un parterre de fleurs. Et le distributeur français a annoncé que les grandes surfaces ne voulaient pas le faire paraître dans leur rayon alors qu'il est disponible au prix de 20 euros. Alors, je sais que ça vous attriste. Une réaction suite à ça.
C'est une injure à Horst Tapper, franchement, c'est inacceptable.
Moi, je crie au scandale parce que si les grandes surfaces ne vont pas sortir d'Eric dans les grandes surfaces, qui va va proposer le jeu? Je pose cette question quand même. Non, parce que franchement, si le seul endroit où on pouvait décemment trouver d'Eric, c'était au carrefour du coin, dans le coin, dans le bac à côté des fleurs, quoi. Enfin, je sais pas.
Oh, le jeu de mots.
Et donc là, franchement, ça sent le sapin. Hein.
D'Eric, tu le trouveras à côté des puits de pétrole.
D'accord, donc c'était le.
Mais il est pas prévu en dématérialiser ce jeu-là.
Je pense pas.
Tu ne dématérialises pas, Eric. Donc.
Non, mais il y a quand même une validation Steam, faut pas déconner.
Et il y a une page Facebook d'ailleurs pour autoriser Eric à aller dans les grandes surfaces. Hein. Je vous invite à la rejoindre. Je sais plus c'est quoi. Vous chercherez Eric sur Facebook. Bref, donc maintenant on va parler d'un jeu qui ne sera pas interdit en grande surface, heureusement pour lui, il s'agit d'Assassin's Creed 3, qui a eu la bonne idée de faire revenir Ezio en version papy. Alors après Old Snake, on va avoir Old Ezio, faut croire que c'est le papy boom du jeu vidéo. Moi, ça me saoule, des commentaires.
C'est pas Assassin's Creed 3, hein, c'est Assassin's Révélation.
Oui, excusez-moi, oui, moi bon.
Bah, forcément, hein, puisque sinon Ubisoft se serait fait troller la tronche.
Ah bah ils se font déjà troller la tronche, faut le
oui,
dire.
Oui, bah déjà, mais moi personnellement, je trouve que c'est un mini coup de gueule quand même, parce que on sentait qu'il y avait une lassitude qui commençait à s'installer dans la série, même si personnellement j'ai adoré Brotherhood.
De même.
J'étais le premier à dire que maintenant il va peut-être falloir passer à autre chose et sortir enfin Assassin's Creed 3. Et bah malheureusement j'ai été assez choqué de voir que là on va encore retrouver Ezio. Cette fois ce sera à Constantinople et il sera beaucoup plus âgé. Enfin âgé, on va pas non plus avoir le déambulateur, mais bon.
C'est impossible. Ça n'existait pas à l'époque.
Enfin bon, voilà. Donc moi personnellement, ça me choque un peu, quoi.
Surtout qu'il recycle Altair aussi, hein, parce qu'on revivra des passages avec Altair, ce qui prouve que c'est du recyclage total. Depuis que la tête pensante du projet s'est cassée, de toute façon, je suis un très grand fan de la série, mais j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond. Hein.
Ben en même temps, quand tu vois le rythme des sorties, je veux dire. Moi, ça m'a pas plus étonné que ça, quoi. Je veux dire, quand tu vois le cycle de développement, peuvent pas faire de la magie non plus, les mecs. Hein, c'était évident que ça allait être du recyclage, quoi. Tu peux pas refaire de nouveaux décors. Imaginez, on parlait de Paris, là. Vous imaginez s'ils devaient faire un Assassin's Creed 3 à Paris, avec tous les décors parisiens, faire le tour à Paris, etc.
Ils font bien avec Constantinople.
Ah oui, non, mais rien ne les oblige à publier le jeu un an plus tard. Ça, c'est une question de thunes. C'est un choix qu'ils ont fait de...
Non, attends, en un an, tu peux pas faire de miracle.
Non, mais justement, ils pouvaient publier le jeu deux ans après, par exemple.
C'est comme Dragon Age 2. Je veux dire, Dragon Age 2, s'il est aussi court, enfin, s'il y a des moments, t'es en mode, tu revisites les mêmes donjons, etc., c'est parce que, voilà, le cycle de développement, il est ridicule, quoi.
Mais là, c'est un choix aussi de leur part de privilégier.
Ah, ça, je suis d'accord, c'est un choix.
Qu'on déplore.
Mais que je déplore aussi, et ce que je veux dire, c'est que, quelque part, il n'y a pas de quoi être tenu, hein, quand tu vois qu'ils le sortent, ils t'en sortent un comme PS tous les ans, pratiquement, à un moment donné, ça passe plus, quoi.
Non, je sens qu'avec ce troisième, ça va casser d'ailleurs.
Oui.
Je pense que au niveau de la critique et au niveau des joueurs, je pense que celui-là va avoir du mal à passer s'il n'est pas, ne serait-ce que au niveau de Brotherhood.
Et même au niveau de la technique, faut dire ce qu'il y a, la technique, comment ça vieillir, mine de rien. Brotherhood était beau, mais il avait quelques tares techniques. Donc, sinon, on va parler artiste, on va parler art. Et on va parler jeux vidéo. Assez surprenant, pourquoi ? Parce que les Yonkis, nos amis américains, ont une formidable idée sur laquelle Eras va revenir.
Oui, tu penses à quoi ?
Il pense au fait que aux États-Unis le jeu vidéo est devenu reconnu comme un art.
Mais je crois qu'il était au courant aussi, Eras. Donc Mordrian, toi qui es mieux informé, vas-y.
Oui, alors en fait c'est une organisation qui s'appelle la NEA pour National Endowment for the Arts.
Ça fondation aussi la NRA. Hein.
Oui, c'est ça.
Ils aiment bien les gros guns.
Fondation financée par les États-Unis en fait, par le gouvernement pour soutenir en fait des projets artistiques prometteurs. Et jusque là, c'était pas possible en fait que un projet de jeu vidéo soit subventionné par cette fondation. Et il y a quelques semaines en fait, la NEA a reconnu que le jeu vidéo, enfin les projets jeux vidéo pouvaient être reçus comme de l'art. Et donc du coup, il va y avoir des jeux vidéo qui seront éligibles à ce soutien financier qui peut aller jusqu'à $200,000 quand même, ce qui est pas négligeable. Et donc du coup, c'est plutôt intéressant. Bon, je pense que c'est surtout économique. Hein. Ça n'a pas vraiment vocation à être le jeu vidéo magnifique. Qu'est-ce que c'est vraiment artistique. Je pense que c'est vraiment histoire de donner des subventions. C'est plus histoire de donner des subventions qu'autre chose. Mais c'est intéressant quand même qu'aux États-Unis ça se passe comme ça, alors qu'en France c'est pas du tout encore la même chose.
Alors ce qui est dommage, c'est que Kev Duty, lui, n'aura pas le droit à cette mention, lui qui est pourtant si poétique. Hein, c'est dommage.
En même temps, j'ai envie de dire, on s'en tape, non, que le jeu vidéo ça soit de l'art, non?
Ok. Oui.
Oui, oui.
Voilà. Non, mais ce qui est effectivement une bonne nouvelle, c'est que bon, ça fera toujours une source de financement plus quoi. Bon, après quand même en France, je sais qu'on aime bien souvent taper en France, mais bon, il se trouve que j'ai des amis dans le milieu du développement du jeu vidéo et le crédit d'impôt mine de rien qu'on a en France, il est pas si mal que ça.
Ah oui, sauf qu'ils ont réagi un peu tard et tous les grands développeurs français se sont cassés au Canada.
Sauf que voilà, c'est le problème, c'est que le crédit d'impôt, moi de ce qu'on m'a raconté en tout cas, ça permet de financer pas mal de trucs. Mais le problème, c'est que bon, en ces temps de déficit budgétaire, va falloir batailler pour qu'ils le maintiennent quoi, c'est tout.
Ouais. Mais en fait, ce qui me gêne avec la position de la France, en fait, c'est qu'il y a aucune aide, enfin presque aucune aide économique, alors que finalement, il y a certains développeurs, grands créateurs, qui ont été reconnus par l'ordre des chevaliers des arts et des lettres. Donc, je pense à Frédéric Reynal, Michel Ancel et Miyamoto, qui ont reçu cette décoration. Ah oui, il y a Peter Moulineux aussi.
Ne lançons pas des débats qui fâchent, Michel.
Tu vois, finalement, la France reste sur le culturel, alors que les États-Unis rentrent dans le concret, quoi. Et le Canada aussi, il donne des aides pour développer le jeu vidéo.
Le Canada, par contre, j'ai envie de dire, il maintient un peu le secteur sous perfusion, quoi. Donc, oui. Et le problème avec le Canada, c'est que quand ils vont retirer ses aides, et ça arrivera forcément un jour, ça va faire mal, quoi.
Ça sera peut-être une occasion pour la France de récupérer quelques développeurs.
Bah, le problème en France, déjà, c'est la formation. Parce que, comme je vous disais, bon, j'ai quelques amis qui ont fait de la formation là-dedans. Et les écoles en France, franchement, quand je vois les délais qu'ils donnent pour faire des projets perso, etc., franchement, tu vois les projets perso qu'il y a dans les écoles aux États-Unis et les écoles en France, mais c'est pas du tout la même, quoi. Je vois mes potes, là, bon, en même temps, ils étaient dans une école, c'est une école moyenne, quoi. C'est pas non plus une grande école pour faire du jeu vidéo, etc., mais ils enchaînaient les projets, ils avaient des outils tout pourris, comment tu veux qu'ils fassent des trucs intéressants là-dedans? Et ça, c'est déjà, c'est que la formation. Et après, les jeunes, quand ils sortent de là, je veux dire, je voyais, je sais pas si on a lu, il y en a qui ont lu l'excellent dossier de nos amis de chez Gamekult sur le Canada, mais évidemment que les jeunes, ils vont voir au Canada, ils sont mieux payés, t'as des projets vachement plus intéressants, on donne leur chance aux jeunes.
Et les gens ont un accent sympa.
D'accord. Enfin voilà quoi, en France c'est vrai que le statut du jeu vidéo, c'est pas encore ça.
Voilà.
D'accord, donc maintenant on va passer au coup de cœur, et plus particulièrement sur un coup de cœur de Mordrain, ce sont des vidéos testeurs ou plutôt des vidéomakers, hein, oui, des commentateurs, ouais, je cherchais le mot, de StarCraft 2, c'est Ponf Étude. Allez, Mordréal, lâche-toi.
Ouais, bah c'est mon petit coup de cœur, enfin mon gros coup de cœur du moment. Je sais que bon, il y a beaucoup de monde qui connaît déjà Ponf Étude, mais moi je viens juste de découvrir et j'avoue que je peux plus m'en passer. Moi, faut savoir que je suis un gros noob de StarCraft 2, mais vraiment. Bah.
Ah, faudra qu'on joue ensemble, que je te roule dessus un peu.
Ligue Platine, ah, on représente.
Voilà, c'est ça. Donc, le vrai noob de base. Et pourtant, c'est un jeu que j'adore et que j'aime beaucoup regarder. Et c'est vrai que quand j'ai découvert la chaîne de Ponf Étude sur YouTube, j'étais assez fasciné, même si, en gros, ce sont des commentateurs de StarCraft 2 qui commentent des matchs. Donc de joueurs forcément plus ou moins connus, souvent déconnus, et donc ils commentent en direct, et donc c'est souvent très animé avec des mots de vocabulaire souvent pas très accessibles, mais qui finalement deviennent assez courants au fil de vos.
Et leur tuto permet de comprendre ces mots quand même.
Hein. Exactement.
Même, je veux dire, quand le mec il te sort Fuggle Gross et que tu vois à l'écran hein, que le Zerg, ouais, il fait un truc, tu comprends ce que ça veut dire, hein, en général.
Exactement. donc, franchement, ça, c'est mon gros coup de cœur du moment. J'adore regarder leurs vidéos. Il y en a souvent 2-3 par jour qui sont publiées. Donc, voilà, si vous connaissez pas, allez voir. C'est franchement très intéressant et on peut essayer d'apprendre un petit peu grâce à ça.
Alors justement, moi je précise rapidement, parce que moi aussi je les suis depuis déjà pas mal de temps, ce qui est bon de saluer aussi, c'est qu'ils ont une bonne connaissance du monde du sport électronique qui ne se limite pas à StarCraft 2. Par exemple, ils avaient commenté des matchs de la team AAA et on voyait qui savait le parcours de cette team, ce qu'elle avait fait sur Counter-Strike auparavant, parce que ce n'est pas une team qui est d'origine sur StarCraft, c'est une team de joueurs qui s'exportent de jeu en jeu. Et c'est quand même des types qui ont pas mal de culture et ça ne se limite pas à StarCraft 2. Donc, on va maintenant passer à un petit retour sur les jeux qui nous ont plu, auxquels on joue, auxquels on ne joue plus, enfin bref, des jeux qui nous intéressent. On va d'abord commencer par StarCraft 2, justement, parce que moi j'y jouais un peu en ce moment, et ça va coller avec le coup de cœur de Mordren. Alors StarCraft 2, est-ce que c'est vraiment indispensable de dire qu'est-ce que c'est, à votre avis ?
Je ne pense pas, non, mais ce qu'on pourrait dire en revanche, c'est que à mon avis, on peut faire, je pense, un point, le bilan depuis que Blizzard a lancé le jeu. Leur objectif avec ce jeu, c'était vraiment de lancer, de faire du sport électronique, de mettre le sport électronique au premier plan.
Ils ont réussi à déplacer la communauté, d'ailleurs. Ça, c'est quoi saluer. Hein.
Et si avec StarCraft 1, effectivement, ça existait, mais je pense quand même que ça restait assez confidentiel. Là, franchement, du fait que dans le jeu il y a un système de saison maintenant, je sais pas si on a remarqué, mais récemment le ladder a été remis à zéro, on a eu des matchs de reclassement, etc., qui est des classements, et vraiment il y a sur ce jeu il y a un vrai esprit de compétition, quoi, et je pense que sur ce point là ils ont vraiment réussi leur pari, quoi.
Et c'est très bien fait. Oui, c'est super bien fait.
Le système de, enfin même pour les commentateurs, c'est génial. Pour les visionneurs, vous pouvez visionner toutes les vidéos via Battle.net. Enfin franchement, je trouve que c'est super bien fait, quoi. Ils ont vraiment travaillé leur truc, quoi.
Et outre le côté sport électronique, on peut dire aussi un petit retour sur ce jeu que c'est quand même une incroyable réussite commerciale. Blizzard, c'est un des seuls développeurs qui est capable de, comme ça, de réveiller les joueurs PC et de faire des millions de ventes. Très facilement, surtout, ce qui est assez surprenant, on voit encore le jeu vit très très bien, les serveurs sont bombés de monde, c'est un truc de fou, on trouve des parties en 2 secondes, il y a des modes qui sont créés, j'ai presque envie de dire, tous les jours, des modes de très grande qualité. Alors là, on revit l'âge d'or des modes, par exemple de Warcraft 3, on retrouve des remakes, des modes originaux, même des modes qui sont proposés par Blizzard, d'ailleurs il y en a un qui s'appelle Left 2 Day. Dead, alors c'est un clin d'œil à Left 4 Dead, et qui est très bien fait, un mode de très bonne qualité, on voit qu'il y a un vrai suivi sur le jeu. Moi qui m'y suis remis il n'y a pas trop longtemps, je trouve quand même que le jeu s'améliore même avec le temps, parce que il y a de plus en plus de choses, et vraiment une valeur sûre du STR.
Comme tous les jeux Blizzard, hein, de toute manière.
Enfin, et en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils ont pas mal rééquilibré le jeu depuis sa sortie. Parce que bon, faut dire ce qui est, moi qui joue 100% Terran, hein, on va pas se le cacher. C'est vrai qu'on était un peu overpowered
avec les tanks.
Au lancement, on était des super gros bourrins et depuis ils ont quand même pas mal bossé. J'ai plus de mal à gagner mes fights maintenant.
Oui, même il y a pas longtemps, il y a eu l'histoire des four gates pour les protos qui ont été nerfés. Attention, il y a du vocabulaire là.
Oui, enfin.
On sait que ça en fera plaisir à quelques-uns, mais bon, c'est un jeu qui est tout le temps mis à jour, qui a un réel suivi. De toute façon, vous pouvez le voir, moi j'avais pas joué depuis pas mal de temps, j'ai halluciné quand j'ai eu le nombre de mises à jour qui s'est installé, quoi. Ouais. On voit chaque mise à jour, en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir en détail ce qui a été changé, et c'est là qu'on voit qu'il y a un réel travail d'équilibrage, que, en fait, c'est jamais fini. D'ailleurs, moi j'avais acheté le guide officiel qui se privait de donner certaines stratégies concernant la macro-gestion, parce qu'il disait qu'au fil des mises à jour, ça risquait de changer. Effectivement, c'est vrai. StarCraft 2 est un jeu qui est en mouvement perpétuel. Ça fait plaisir de voir un suivi comme ça. Donc, sinon, gros jeu du moment. Je sais que le tyran avait beaucoup envie d'en parler. Certains disent que c'est déjà la nouvelle référence graphique. Je parle bien sûr de The Witcher 2.
Et pas que de la nouvelle référence graphique. Hein. En tout cas, en ce qui me concerne, honnêtement, je vais vous dire, moi ces dernières années, le jeu de rôle à l'occidental commençait à me désespérer un peu.
Oh mais avec Dragon Age 2, ça t'a pas emballé?
Ouais, oh, grave.
C'est un petit bug.
Non mais bon déjà on a nous joueurs de jeux de rôle occidentaux, il faut dire ce qui est, depuis la fin 2002 jusqu'à la sortie justement de The Witcher 1, on avait connu quand même une bonne grosse traversée du désert des familles et depuis quand même bon j'aime bien les Mass Effect etc, mais ça manquait d'un jeu tu vois qui me rappelait le bon vieux temps avec bon déjà les FPS RPG avec Deus Ex ou les RPG cultes comme les Planescape Torment. J'attendais des jeux tu vois comme ça vraiment qui marqueraient ma carrière de joueur, et je dois avouer que déjà l'année dernière avec Fallout New Vegas et puis cette année là avec The Witcher 2, on tient quelque chose là. Ça s'améliore de jeu en jeu. Donc pour revenir plus précisément sur The Witcher 2, donc sans vous spoiler la fin du scénar du premier, il faut savoir donc le jeu prend place un mois après les événements du 1. Et que on se retrouve au début en train d'assiéger une immense cité. Je vous passe sur les graphismes qui sont absolument mais magnifiques.
Et c'est assez bien optimisé aux dernières nouvelles, non?
En fait, c'est la roulette russe.
Oui.
Le problème, c'est que moi, sur ma config, pour ceux qui les techniciens qui connaissent un peu, une ATI Rodeon 4890, 6 Go de RAM sur mon PC, ça passe bien. Mais je sais qu'il y a des possesseurs de Nvidia où les FPS sont horribles. Enfin, voilà. Enfin, c'est vraiment. Je pense qu'il faudra attendre les prochains drivers pour voir ce que ça donne. Bon, alors The Witcher 2, une ambiance. Franchement, je vous assure, il y a un travail artistique sur ce jeu. Vraiment, il y a des jeux de couleurs, des textures. Enfin, c'est absolument magnifique. Certains vont penser que j'exagère, mais franchement, je n'avais jamais vu ça sur un jeu de rôle occidental. C'est vraiment, sauf peut-être dans Planescape Torment, qui avait vraiment une identité graphique aussi, mais il y a une identité visuelle excellente. La bande son, elle est à se rouler par terre. Au niveau du jeu, enfin des possibilités d'interaction avec les autres personnages, ça a l'air absolument immense. Par exemple, sans vous spoiler, je sais que le chapitre 2 du jeu, en fonction de nos choix, on ne se retrouve pas du tout sur la même carte en fait.
C'est donc une forte jouabilité.
Ouais, ça, il y a des lieux entiers qu'on peut louper comme ça à cause de choix au niveau du scénario. Sachant qu'en plus nos choix de scénario dans le 1 influent ce qui se passe dans le 2. Ça il faut pas l'oublier, donc jouer au 1 et en plus Alors le point noir, s'il devait y en avoir un, c'est que le jeu, on va dire, est horriblement difficile. Enfin, pour moi, il n'est pas horriblement difficile, si vous voulez, parce que bon, je suis un homme, en vrai. mais quand même, non, mais il faut reconnaître que même en mode normal, le jeu, il t'envoie de ses parpaings dans la gueule, mais c'est une difficulté en fait à laquelle les gens ne sont plus habitués, quoi. Et sachant qu'en plus ils ont légèrement modifié le système de combat, ce qui fait que du coup les joueurs sont en plus déstabilisés sur ça. Bon, alors après il y en a qui trouvent que le nouveau système est naze, mais moi je le trouve excellent parce que c'est un système. Si le jeu est difficile justement, c'est parce que il faut utiliser tous les éléments qui sont à notre disposition, quoi. T'as des pièges, il faut les utiliser. Dans le premier par exemple. Je sais pas s'il y en a qui ont joué ou un, mais en fait pour utiliser la magie il y a des signes, et en fait le problème du premier c'est qu'il y avait en grosso modo deux signes qui servaient, le reste ils servaient à rien. Là il y en a au moins 3 ou 4 qui sont bien, qui servent de temps à autre, il faut vraiment varier les techniques etc. C'est vraiment un jeu où il faut bien réfléchir avant son combat, se préparer, et la préparation est aussi importante que le combat lui-même, quoi. Et du coup, le problème, c'est que tout le prologue du jeu est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour le joueur qui est pas préparé, quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même un souci de game design, parce que j'ai quand même pas mal avancé. Et il se trouve que ne vous arrêtez pas au prologue, les gens, parce que je vous assure que le jeu devient, en fait, beaucoup plus facile une fois qu'on a débloqué certains mouvements, certaines techniques, etc., quoi. Il y a vraiment, je pense qu'ils ont fait une erreur au niveau du game design, le tutoriel, il y a, pour ainsi dire, déjà, il n'y a pas de tutoriel, en fait. Donc, t'es obligé d'apprendre les mécaniques du jeu par toi-même, etc. Donc, c'est assez mal foutu. Le prologue est vraiment, tu te retrouves avec des groupes de 6 ennemis qui t'arrivent sur la gueule, alors que, justement, t'as pas les techniques, qui te permettent de gérer, des groupes d'ennemis comme ça. Donc, bon, pour le joueur qui est un joueur qui prend vraiment le temps de réfléchir, etc., ça passe. Moi, par exemple, tu vois, c'est vrai que je suis mort plusieurs fois. Hein. Je vais pas dire non plus, je suis un dieu à la souris, mais je m'en suis quand même assez bien sorti, quoi. J'ai pas trouvé ça excessif. Mais je reconnais que même pour un mec qui joue en normal, qui a pas l'habitude d'une difficulté comme ça, c'est assez velu, quoi. Mais franchement, passer ça, passer aussi l'interface qui est absolument pourrie, mais en fait c'est honnêtement c'est une interface qui est le cul entre deux chaises. On voit qu'ils veulent sortir leur jeu sur console, ça c'est une interface, le problème c'est qu'ils sont arrêtés en chemin, quoi. C'est ni bien pour la console, c'est ni bien pour le PC, en fait.
Il y aura peut-être des modes après qui réajusteront l'interface pour PC. En tout cas, sur Oblivion, c'est ce qu'il y avait eu. Hein. Il y avait eu un mode qui permettait d'avoir une interface plus adaptée au PC. Alors après, je peux voir si la communauté suivante.
En fait, bon, comme c'est CDK Project, pour ceux qui ne se rappellent pas, CDK Project sur le The Witcher 1, ils ont sorti le jeu. C'était pas que des problèmes d'interface. Le jeu, il était buggé jusqu'à la moelle, quoi. Il y avait des ralentissements de fou. Et il se trouve qu'ils ont sorti ensuite une version qu'on appelle l'Enhanced Edition, donc l'édition améliorée. Et là, ils avaient tout amélioré, quoi. Les graphismes, les chargements, ça allait mieux. Donc, j'ose espérer que CDK Project va bosser pour améliorer son interface, quoi. Et parce qu'en plus, mais il y a plein de petits défauts comme ça qui viennent un peu gâcher l'expérience. Genre les contrôles de clavier. Je sais pas, n'importe quel joueur PC dirait, bon, normalement, tu vois, tu fais échappe, option, et tu récliques tes contrôles. Ah mais non, dans The Witcher 2 ça marche pas comme ça, tu vois, il faut que tu sortes de ton jeu, que tu reviennes au bureau, tu vois, tu ailles sur le launcher pour aller régler tes contrôles clavier, quoi.
Ça c'est des erreurs assez aberrantes quand même, mais le studio est récent, non, aussi.
Oui, non, mais attends, je veux dire, ils ont sorti ils ont déjà sorti un jeu sur PC, quoi.
Oui.
Je sais bien que c'est des Polonais qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Mais je veux dire, ils ont plus l'excuse d'être des noobs dans le milieu, quoi.
Surtout que leur jeu était super attendu.
Ouais, surtout que le jeu est super attendu. Bon, après, encore une fois, parce que c'est vrai que je vois masse de gens qui gueulent sur le jeu, qui s'arrêtent à ça, qui, ouais, j'arrête de jouer, c'est naze et tout. Mais franchement, les gens, s'il vous plaît, passez ces défauts. C'est vrai qu'ils sont contraignants, c'est vrai qu'ils sont parfois très très chiants. Et je vous assure qu'une fois qu'on arrive au chapitre 1, franchement, on rentre dedans, quoi. Les décors sont mais immenses. Je n'avais plus vu ça. Enfin, je n'avais plus vu des décors aussi grands et aussi beaux depuis très longtemps. Franchement, tu rejoues à Oblivion, après tu vois les forêts. Voilà, quoi. ça fait petit joueur, quoi, à côté. T'as vraiment l'impression d'être transporté dans un autre monde. T'as le travail. Jouez-y. Passez les défauts et jouez-y.
D'accord.
Voilà.
Bon, on va résumer ça là-dessus, hein, si tu permets.
On sent la passion.
Voilà. Et au passage, si je me permets une petite private joke, certains membres du podcast jouent à Civilization 5, je l'ai grillé.
Non mais j'y touche plus, il est ouvert mais j'y touche
bah,
plus.
Moi j'y ai joué à Civilization 5.
Non, oui, en ce moment, preuve de professionnalisme, Eras teste les jeux en même temps qu'il fait le podcast.
Non mais de toute façon sinon, genre, sinon...
Comme je t'ai grillé là, tu ne savais pas que j'allais sur Steam en fait, tu avais oublié.
Non, je sais, je...
Bon, en même temps, Civilization, c'est vrai que tu peux faire le podcast et en même temps diriger tes unités.
Oui, c'est pas bon. Un jeu très frénétique. Donc, bon, on va changer de jeu tout de suite parce que je suis désolé Tyran, mais si on te laisse parler de The Witcher 2,
j'en ai un au moins pour 4 heures là.
Un podcast. Donc, passons à un jeu culte qui était fourni dans l'Orange Box, sorti en octobre 2007, et auquel un inculte est en train de s'initier. Je parle bien sûr de Mordrian et de Portal. Alors vas-y, parle.
Eh oui, moi, comme je suis souvent très très en retard sur les jeux cultes, je ne sais pas pourquoi.
Il découpe juste Super Mario 64.
C'est l'habitude, je ne sais pas. Oui, j'ai eu une lubie d'un coup de me rattraper Portal, parce que Portal 2 vient juste de sortir, donc moi, comme j'aime bien prendre les premiers épisodes quand le deuxième arrive, voilà, ça y est, c'est fait.
D'ailleurs, t'as raison, ils sont moins chers, hein, au passage.
En plus, et donc j'ai enfin pu découvrir Portal, même si évidemment j'avais entendu énormément de choses sur le jeu. C'est chose faite et évidemment j'ai adoré, hein. C'est pas difficile de le deviner. Juste pour resituer, donc tu l'as dit, c'est sorti en 2007 dans la Orange Box et on a
quasiment en 2008, hein, c'est octobre donc.
Et c'est sorti tu l'as dit, pardon. On incarne un sujet de test qui dans un laboratoire qui s'appelle Aperture Science et on subit en fait la loi d'une intelligence artificielle qui s'appelle GLaDOS et nous fait passer un certain nombre de tests, donc il y a 19 salles de tests et le but en fait c'est d'essayer de maîtriser un système de portail qui nous font c'est difficile à décrire comme ça, mais donc vous utilisez le premier portail et vous sortez par le deuxième portail, donc ça peut vous permettre un certain nombre de stratégies pour réussir à passer les tests.
Oui, car donc, je précise, désolé je te coupe, faut pas oublier, chose très importante, la physique est gérée, plus vous entrez vite dans un portail, plus vous en sortez vite du deuxième.
Exactement.
Tout le jeu est basé là-dessus en gros.
Voilà, et donc évidemment, plus les salles de test avancent et plus c'est difficile. J'imagine que vous savez exactement de quoi je parle, tout le monde évidemment. Moi ce que j'ai adoré dans le jeu, c'est c'est comment les développeurs ont réussi à nous faire ressentir des choses, parce que globalement on est quasiment seul, mis à part... GLaDOS qui nous parle, et je trouve que c'est très très bien fait. Cette façon de jouer avec le joueur qui m'a vraiment impressionné et que j'attendais forcément puisque j'en avais entendu parler pendant longtemps. Et je trouve que c'est très très bien fait et ça mérite évidemment son statut de jeu culte. Évidemment, c'est pas ma petite voix qui va décider du statut d'un jeu culte, mais j'adhère.
D'accord. Cas, voilà. On mettra le petit badge approuvé par Mordrian.
Voilà, exactement. C'est très pompeux, j'adore.
Donc, je vais passer maintenant à un jeu que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a très récemment, il s'agit de Portal 2, forcément, pour rester un peu dans le thème. Alors, Portal 2, qu'est-ce qu'il offre? Parce qu'il avait un peu l'ambition de devenir un vrai jeu, contrairement à Portal premier du nom, qui était un peu un espèce de comment dire, de projet.
Michael, oui. tu vas provoquer des révoltes, là. Tu peux pas dire Portal 1, c'était pas un vrai jeu, là. Tu vas recevoir des colis piégés, là, je t'assure.
Un peu comme Dr. Chocapic et sa note scandaleuse pour le premier Portal. Toi qui aimes Gamekult, j'avais envie de le placer. Non, mais le premier Portal était surtout un espèce de projet, on va dire un concept, et là, ils ont vraiment donné, ils se sont vraiment donné les moyens de leur ambition, et ils ont fait un jeu qui est quand même beaucoup plus ambitieux avec, bah, du coup, on a beaucoup on a des environnements différents, on a une véritable mise en scène avec cette fois un peu plus de personnages, notamment Wesley. Et ce que j'ai trouvé de beau dans Portal 2, c'est que c'est un jeu généreux, c'est par exemple les répliques. Alors déjà, c'est un jeu qui dispose d'une VF tout simplement fabuleuse à mon goût. Certains pensent le contraire, mais bon, moi je maintiens mon avis là-dessus. Des dialogues parfaitement écrits, avec un humour qui est renversant à mon goût. J'avais jamais ri autant devant un jeu. Et ce qui est beau, c'est que la moitié des répliques, on peut les louper. C'est par exemple, à un moment, sans spoiler, quelqu'un essaye de vous tuer, il vous dit de revenir. Dans n'importe quel jeu, on ne reviendrait pas, mais dans Portal 2, moi je suis revenu. Et là, on a le droit à peu près 5 minutes de dialogue, mais juste hilarant. Et c'est tellement facile de louper ce genre de choses. C'est là qu'on voit qu'il y a une vraie générosité dans le jeu. Bon, sinon, au niveau du principe, ça reste le même. On a les portails, on a quelques nouveautés, mais ça n'a rien de renversant. C'est un jeu qu'on fera surtout pour son scénario, son humour, son ambiance. Pas trop pour le principe en lui-même, car moi, j'ai trouvé, je sais pas si c'est que moi qui suis un génie, mais franchement, je pense pas. J'ai trouvé le jeu horriblement facile. Je n'ai pas bloqué une fois sur une chambre
d'hôtel. Il n'est pas difficile.
Il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord au niveau du principe du jeu, c'est que c'est juste super marrant surtout maintenant qu'on a en fait des gels qu'on peut déplacer avec grâce au portail,
qui nous
permettent d'accélérer ou de sauter. Bah, je te coupe le truc.
Non, mais sinon, je veux dire juste.
Je trouve que c'est vraiment super.
Portal 1, c'est pas non plus Portal 2 qui va tout changer.
Non plus.
Vous n'avez pas aimé Portal 1, c'est sûr, n'achetez pas Portal 2.
Oui, voilà, c'est surtout ça. Donc, les gels, justement, tu en parlais, là où Valve fait fort, c'est qu'ils ont avoué que les gels, ils se sont inspirés d'un jeu que j'avais fait à l'époque. D'ailleurs, moi, ça m'avait vachement surpris, c'est Tag the Power of Paint, qui était un projet étudiant qui avait gagné je ne sais plus quel concours.
L'IGF, l'Independent Game Festival.
Donc, moi, je l'avais fait avant et j'avais découvert ce système de gel, je me suis dit, mais c'est totalement pompé et tout. Et finalement, ils l'avouent dans les commentaires...
Si tu me permets, c'est pas seulement qu'ils l'avouent, c'est qu'en fait, ils ont embauché l'intégralité de l'équipe du jeu qui a développé le jeu.
Ah oui, j'étais pas au courant, carrément.
Oui, moi.
Donc, très beau geste de la part de Valve, on peut dire, vraiment. Et ça ajoute quand même un petit plus. Au Portal 2, on va pas rester une heure dessus, c'est un jeu excellent. Si vous avez fait le premier et que vous avez aimé, vous devez de faire le deuxième. Même si vous n'aimez pas les jeux de réflexion, car franchement, moi, autant le dire, je déteste ça, j'ai adoré Portal 2, chose assez surprenante. Mais vu qu'il est super facile, je vais troller un peu, mais j'ai limite envie de dire qu'on ne réfléchit pas dans Portal 2, quasiment. Moi, je sais, à chaque fois, je regardais 10 secondes pour voir les éléments et on comprend directement ce qu'il faut faire. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Après, peut-être que, je sais pas, le principe me parle plus que la moyenne, mais j'ai trouvé ça assez facile. Et j'ai l'impression que quand même, ils se sont retenus sur certains trucs. Il y a quelques concepts qui sont pas utilisés à leur maximum, comme par exemple, on a des espèces de ponts laser ou même des rayons qui attirent tout ce qui passe à l'intérieur, qui finalement sont utilisés surtout les rayons qu'à la fin du jeu. Et on se dit, ah ouais, il y a que ça fait avec, alors qu'on aurait peut-être pu faire plus avec. Mais ça reste quand même un excellent jeu, le vrai Portal, j'ai envie de dire. C'est Portal 1 qui se donne des gros moyens pour réaliser ses ambitions.
Et en termes de durée de vie, ça donne quoi?
C'est minable.
J'ai oublié de dire,
il y a un mode coop quand même.
Attends, c'est minable.
Mais au niveau du solo, parce que le premier durait 3h30 à peu près, 3h.
Je vais en faire crier plus tard, mais le solo, je me le suis refait là. Je l'ai fait le premier coup en 3 heures, je l'ai refait en à peu près 2 heures. Après, il y a la coop qui est assez longue, qui offre des niveaux différents, avec lequel on aura un DLC gratuit qui va arriver. La coop, c'est un réel plus, d'ailleurs, se réfléchir à deux, c'est une bonne idée. C'est un mode online qui est un peu à la Assassin's Creed Brotherhood. Attention, je mets des grandes pincettes. parce qu'il offre un mode online qu'on n'a pas l'habitude de voir, une nouvelle forme d'online, une nouvelle forme de jeu en équipe qui est vraiment sympa. J'ai bien aimé le mode coop de Portal 2 qui est assez intéressant. Mais concrètement, le jeu, si vous l'achetez à 70€, ça fait quand même mal.
Bon, après, nos amis joueurs connaissent tous les combines en Angleterre, etc.
Oui, j'en apporte.
Ouais, voilà. D'ailleurs, à propos de Portal, je voudrais juste parler vite fait d'un petit jeu qui m'y a fait penser très récemment, là. Ça s'appelle Paradox Shift. S'il y en a qui suivent l'actualité du site, j'en ai parlé récemment. Regardez sur YouTube, ça m'a fait beaucoup penser à Portal, parce que déjà, bon, c'est un jeu à la première personne avec des puzzles et un gun. Sauf que là, dans ce jeu-là, en fait, vous manipulez le temps. Et en fait, votre gun, à quoi il va servir ? Déjà, vous allez pouvoir traverser plusieurs époques. Et en fait, tous les puzzles vont se baser sur l'idée que vous pouvez faire voyager des éléments du décor à travers le temps. Et déjà, les décors seront pas les mêmes en fonction de l'époque à laquelle vous allez être, ce qui va vous permettre de traverser des obstacles, etc. Et en plus, vous aurez des puzzles à résoudre avec votre gun, quoi. Un peu comme Portal, si vous voulez, sauf que là, vous transportez les choses à travers le temps. Ça a l'air très intéressant. C'est un projet étudiant qui a été présenté à l'IGF. Je répète, ça s'appelle Paradox Shift. Et suivez-le de très près. Je pense que c'est très, très prometteur.
Et c'est sur PC, sur Xbox One,
PC pour le moment.
Ok. Si je peux placer un peu il y a un autre projet récemment qui m'a pas mal intéressé. Ça s'appelait Yokai. Alors, c'est plus simple, c'est un jeu de plateforme en 2D qui est vraiment graphiquement très beau, qui a l'air vachement bien. En fait, on contrôle un petit démon, donc un yokai en japonais, donc qui signifie esprit de la forêt, et qui va avoir différents pouvoirs. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a découvert, c'est se transformer en boule, etc. Et en fait, les développeurs ont besoin de fonds, donc ils ont demandé un peu d'aide, à façon récemment d'un No Time to Explain. Et pour l'instant, au bout de plusieurs semaines, ils ont récolté 20$ sur 8000 demandés.
Okay.
Donc c'est un peu
boum, c'est dans ta tête.
C'est bien violent.
Les gens sont généreux.
C'est bien violent, alors que sur le même site, il y en a d'autres qui marchent mieux, et que franchement,
Yokai, il est magnifique, quoi, comme
ah
jeu.
Oui. On est parfaitement d'accord. Il est.
C'est très beau.
Donc c'est ça me dégoûte un peu. Donc j'avais envie d'en parler un peu.
D'accord, donc si vous voulez voir ce jeu magnifique sortir, donnez à votre tour 20$, vous doublerez la cagnotte dont dispose le jeu.
Eraz, tu sais, on peut financer le truc là
C'est Indiegogo. Bah, je propose qu'on mette le lien dans le sujet du podcast, non ?
Oui, ouais. Oui, bon, on va faire ça après, hein, comme ça, si vous avez envie de donner de l'argent pour ce magnifique jeu arrivé.
Un game au souci, un jeu indépendant.
Oui.
On va faire bientôt un slogan comme ça. Alors justement, dit jeu indépendant, on va maintenant parler d'un jeu qui s'appelle, alors attention, nom de merde, je suis désolé, moi je trouve quand même ça assez naze, Terraria.
Ah, Terraria. Bah écoutez, il y en a qui connaissent Minecraft ici.
Oui.
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 Donc Terraria, qu'est-ce que c'est ? C'est Minecraft en 2D avec en plus des trucs à faire en dehors de construire des choses. Et ça, c'est vachement bien. Parce que Terraria, en fait, l'idée que c'est quoi le petit plus de Terraria par rapport à Minecraft, c'est qu'il y a des séances de baston. Et quand je dis séance de baston, c'est que franchement, ça me fait vachement penser à Castlevania, quoi. Et je sais pas si alors qui maintenant une autre question, qui a joué à Minecraft ici?
Moi-même.
Tout le monde. Tout le monde, c'est bon.
Vous me rassurez, c'est bien.
j'ai sûrement joué plus que toi d'ailleurs.
Quel podcast interactif, j'adore.
Ouais, c'est comme ça.
Et donc je sais pas pour vous, mais moi personnellement Minecraft au bout d'un moment ouais, j'aimais bien explorer etc., mais je trouvais qu'en fait, au bout d'un moment, je commençais à un peu me faire chier.
Il faut jouer en multijoueur.
Non, mais le truc, c'est que ça manque de quelque chose à faire en dehors de la construction, quoi. Je veux dire, par exemple, moi Minecraft, moi ma partie préférée dans Minecraft, c'est quand il y a la nuit qui débarque, qu'il y a les monstres qui te tombent sur la gueule, quoi. C'est ma partie préférée.
Monstres qui sont au passage très faciles à éliminer, donc
voilà. Voilà. Donc c'est
pitoyable à ce niveau.
C'est justement ça le problème. Et dans Terraria, tu as un vrai système de combat, quoi. C'est vraiment, c'est super fun. En fait, tout, je sais plus au bout de quelle période, mais t'as ce qu'on appelle les lunes de sang. Et là, t'as des boss monstrueux qui tombent sur la gueule et tout. C'est hyper fun. Donc, t'as l'aspect exploration de Minecraft et en plus, t'as un aspect baston qui est vachement sympa, quoi. Donc, si vous aimez Minecraft, mais que quand même, il y a quelque chose qui vous manquait, un côté aventure qui vous manquait un peu. Franchement, jetez-vous sur Terraria si vous n'êtes pas allergique à la 2D. Et quand je dis 2D, c'est vieille 2D. Hein, parce que faut quand même...
J'ai pas pu m'empêcher de le regarder, là vous avez sûrement entendu le clavier. Mm. C'est gratuit comme jeu ou pas?
Non, c'est pas gratuit. 10 euros.
10 euros
pour le moment, parce que je crois qu'après ils vont... La version Minecraft, ils vont augmenter le prix.
Ouais.
D'accord, non, parce que j'étais en train de regarder les screens, là. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein, je connaissais pas.
C'est mignon, quoi. C'est la petite 2D mignonne avec des personnages qui rappellent un peu Final Fantasy, je trouve. Enfin, les premiers.
Oui, tout à fait. Et Final Fantasy 1, surtout.
Et franchement, c'est sympathique. Donc, à essayer. 10 euros, franchement, voilà, quoi. C'est pas...
Donc, donnez 20 euros pour le jeu dont on a parlé avant. Donnez 10 euros pour Terraria. Eraz, est-ce que tu veux parler d'un autre indépendant en manque de thunes?
Bah pendant ce temps, j'en vois que certains pendant le podcast ont commenté sur certains sites qui sont pas n'est-ce pas?
Ah, ce n'est pas moi, c'est qui?
Non, il a rigolé.
Reconnaître.
Il a pas rigolé beaucoup. Oui, mais t'es con de faire ça avec moi aussi.
Hera joue à Sid Meier's Civilization 5. Non, alors le dénonciateur, il peut aller se faire. Donc, vas-y, lance-toi.
Bah, la preuve, je suis en train de parler. Non, parce que Luminesca. Alors, Luminesca, j'aurais bien voulu vous en parler. Parce que c'est un petit jeu. Alors, on a pu l'essayer gratuitement ce week-end, ce sera trop tard quand vous essayerez ça. On peut lui aussi. Vas-y tout de suite, toi. On peut le soutenir aussi pour qu'il sorte. Alors de toute façon, ce qu'on peut essayer est pas énorme. Il y a une bêta plus longue pour ceux qui ont aidé au financement du jeu.
Ça qui est donc cher, mais jeu indépendant. Ouais.
C'est combien? Enfin, on donne ce qu'on veut.
Oui, c'est toujours Indiegogo, donc tu donnes ce que tu veux et plus tu donnes à chaque fois, il faut le dire aussi, plus tu as des bonus. Donc il y en aura. Donc tu peux accéder à la bêta du jeu. Tu auras, si tu payes assez, t'auras déjà acheté le jeu et tu auras pas besoin de le repayer. Si tu donnes encore plus, tu peux avoir la BO du jeu. T'as souvent des packs collecteurs avec.
Les développeurs te font des niveaux sur commande.
Ah non, mais c'est ça, tu peux, il y en a où t'as le nom dans le jeu. C'est vraiment des trucs de, enfin, peux vraiment faire des trucs intéressants.
Et si tu payes assez, t'achètes un développeur.
Très simple. Il vient bosser chez toi après.
Tu peux acheter un studio aussi. Si tu veux. Et
Donc Luminesca, voilà. S'il te plaît. Le genre lui-même, c'est
quoi exactement? Désolé, on part dans les tripes, là, c'est que ça commence à traîner le podcast, donc
Alors, désolé. C'est un petit jeu où en fait on va contrôler un poisson qui donc le principe du jeu est très simple. Vous pouvez aller en haut, en bas, à gauche, à droite, faire des accélérations un peu chargées et c'est tout.
Ouais, et, pour un poisson en même temps.
Voilà, c'est en 2D, donc c'est alors ça rappelle un chouïa limbo parce que c'est en nombre noir avec des fonds colorés, etc. Vous pouvez changer la couleur du fond, enfin c'est que du bonheur.
Moi ça me fait penser à École Dauphin, mais
aussi. Et donc ce qui est toujours impressionnant avec ces petits jeux, c'est qu'on y passe pas mal de temps parce qu'on est pris par l'ambiance, c'est juste plaisant. En plus le jeu te guide beaucoup mais te donne l'impression de rester assez libre. C'est un peu de la débrouille aussi. Il faut récupérer des planctons pour pouvoir faire des accélérations, etc. Il faut pas se... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa.
Et disons-le, c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, la pâte graphique du machin, c'est...
C'est sûr. Oui. On est d'accord.
Donc, sinon, nous avons notre reporter, pas en direct de Cannes, mais presque. Je parle bien sûr de Mordrian. Et on va tout de suite aborder notre rubrique culture et plus particulièrement cinéma pour cette petite édition. Mordrian, à toi la parole.
Oui, alors je vais pas vous parler de Cannes puisque à l'heure où on enregistre ce podcast, la Palme d'Or n'a pas encore été décernée. Donc je vais plutôt vous parler d'un petit coup de cœur sur un film que j'ai eu là en salle il y a pas longtemps qui s'appelle L'Aigle de la 9e Légion. Alors comme ça tout le monde se dit mais quoi, de quoi il va nous parler? Et en fait, c'est un film réalisé par Kevin MacDonald, c'est un monsieur qui a fait Le Dernier Roi d'Écosse, je sais pas si vous connaissez.
Ouais. C'est sorti, je connais les restaurants moi pour ma part. Pardon.
Donc c'est sorti le 4 mai 2011, il faut enchaîner après cette vanne pourrie. C'est avec Jamie Bell, c'est le petit garçon de Billy Elliot qui a bien grandi depuis. Et donc l'histoire s'étend 140 après Jésus-Christ, en Angleterre sous domination de l'Empire romain. Il y a un jeune centurion qui s'appelle Marcus Aquila. Qui prend ses fonctions dans une garnison anglaise et son but en fait va être de restaurer l'honneur de sa famille en récupérant l'aigle de la 9e légion. Donc c'est une sorte de statue tout en or qui représente la gloire de l'Empire romain. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir au-delà du mur d'Adrien avec son esclave en plein territoire ennemi. Donc le film en fait c'est un péplum plus un road movie plus un buddy movie. Donc ça fait plein de mots anglais, j'adore.
Oui, non mais c'est des mélanges assez particuliers parce qu'en général c'est pas des genres qu'on a forcément l'habitude de voir ensemble.
Ouais, et c'est très bien fait en fait dans le film. Donc on a évidemment l'apport de la mythe, enfin de tous les mythes romains. Donc déjà ça c'est cool, et en plus le road movie donc qui va essayer de nous transporter à travers l'Écosse plus le buddy movie, donc c'est-à-dire que l'esclave et le jeune centurion vont finir par s'entendre, ou finalement on sait pas parce qu'il y a des tensions entre les deux. Donc ça donne un film qui est assez rythmé, donc ça dure 2 heures et ça passe très très vite, enfin j'ai trouvé, et ça montre en fait que même s'il n'y a pas énormément de batailles à la Gladiator, ça peut donner un film qui a de la gueule, quoi, avec un bon rythme. Et moi, personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon péplum. Donc, personnellement, je vous le conseille. Donc, il est encore en salle, donc foncez-y.
Et bam, deuxième badge approuvé par Mordrain. C'est bon. Donc, quelqu'un a quelque chose à rajouter, un film qu'il a vu il y a pas longtemps, quelque chose de style?
Moi, je pourrais vous parler d'une série animée qui me tient beaucoup à cœur en ce moment.
Beaucoup à cœur.
je vais vous parler d'une série d'animation à mon goût pas assez reconnue en ce moment, qui s'appelle Tiger and Bunny. Alors qu'est-ce que c'est Tiger and Bunny, là comme ça, ça a l'air d'une histoire à l'eau de rose ou une connerie comme ça, enfin...
Un peu, oui. Moi qui connais pas.
Sauf qu'en fait, Tiger and Bunny, c'est l'histoire de super-héros. Tiger and Bunny, donc c'est la dernière production des studios Sunrise. Pour ceux qui ne connaissent pas le studio japonais Sunrise, c'est ceux qui, entre autres, ont fait Escaflow. Voilà, qu'on... C'est du lourd, quoi. Et le concept de cette série à la base, cette série a fait beaucoup parler d'elle à la base parce qu'ils ont voulu introduire un concept, c'est-à-dire le concept de la publicité pour financer le truc, enfin pour financer la série à l'intérieur, enfin sur les images, quoi. Je sais pas si on a qui ont regardé Code Geass, par exemple. Il y avait des pubs pour Pizza Hut à la con sur ce etc. Alors, forcément au début tout le monde pensait que Tiger and Bunny ça allait être super naze, et donc du coup moi j'ai regardé ça un peu, je me suis dit bon on va voir ce que c'est quand même, c'est Sunrise quoi, et franchement surprise, à ma grande surprise, c'est une excellente série, franchement. La pub est bon, soyons honnêtes, ceux qui ne supportent pas la pub ils ne verront que ça et ils ne supporteront pas ça, mais c'est super bien intégré à la série. Pourquoi? Parce que en fait cette série se passe dans un monde où les super-héros sont dans un show télé en fait. C'est voilà quoi, ils sont là pour arrêter les criminels, mais de manière la plus classe possible, avec un impresario derrière qui leur dit non mais attends 5 minutes avant de l'arrêter, là tu vas nous faire ça comme ça et tout, bien classe. Et donc la pub, comment ils l'ont introduite, donc en fait en général la pub elle est sur les costumes des personnages, et finalement ça s'adresse super bien, parce que bon voilà quoi, la pub c'est leur sponsor en fait quoi. C'est très très bien intégré, donc ça bon à la limite c'est secondaire j'ai envie de dire, mais j'ai trouvé ça pas mal, c'était bien intégré. Mais surtout ce qui m'a fait plaisir, c'est que bon, je vais troller un peu, mais pour moi l'animation japonaise ces dernières années c'est un peu pourri quoi. T'as plein d'adaptations de mangas etc, ils sont pas foutus de créer
sujet sensible.
Ils ne sont pas foutus de créer une seule série animée originale, et quand ils en font une, en général, c'est des trucs, enfin, très mal racontés. Enfin, voilà, on va pas rentrer dans le débat. Et en l'occurrence, Tiger and Bunny, franchement, le scénario en lui-même, il est pas forcément très original, très honnêtement, mais, enfin. Pas très original pour ceux qui disent les comics, hein, je précise, parce que pour l'animation japonaise, je suis pas sûr que ça a été tellement exploité que ça. Hein, mais pour ceux qui ont l'habitude de lire des comics, etc., ça sera pas forcément d'une très très grande originalité, on va dire. Mais bon, déjà, le pitch de base, moi, je le trouve très intéressant. Enfin, je veux dire, mettre des super-héros, des gars qui sont là pour faire le show, etc., je trouve ça très très intéressant. En plus, c'est extrêmement bien raconté, il y a une narration franchement mais d'une qualité, c'est fait en toute simplicité, il y a un rythme, c'est nickel, franchement regardez cette série. À mon grand regret, il n'y a pas beaucoup de personnes, je vois sur les forums, il n'y a pas beaucoup de personnes qui la suivent apparemment, et pourtant franchement c'est une des meilleures séries d'animation japonaise que j'ai pu voir ces dernières années quoi.
Oh, donc si on évite le phénomène oh j'ai soif, heureusement j'ai une canette Coca-Cola pour me désaltérer avec son goût délicieux et seulement du
et, non mais tu dis ça, mais en plus il y a une nana, c'est du Pepsi hein, c'est pas du Coca-Cola, c'est du Pepsi, mais c'est exactement ça quoi.
Ah oui, non mais donc quand même ces trucs de pub, moi je caricaturais, s'il y a vraiment ça, ça peut non, peut-être là, en c'est... déranger pas mal.
Non mais ça c'est une fois au début, enfin c'est
l'autodérision.
Non mais de toute façon, je veux dire, c'est les sponsors quoi. C'est genre tu sais les coupures qu'ils font généralement les séries japonaises en plein milieu. Ouais. C'est ça en fait. Sauf que là, au lieu de mettre une pub normale, tu vois, ils te mettent une pub avec la nana de la série qui te fait une pub pour Pepsi quoi.
Ah ouais. Ouais, ce qui est quand même assez spécial. Bon, moi, je préfère pas trop m'avancer dessus tant que je connais pas la série. Mais je vais aller voir, j'avoue que tu as.
Mais franchement, sinon, il y a un vrai scénario derrière. Faut pas croire que ça s'arrête à la pub, etc. Il y a un vrai scénario intéressant. enfin, déjà, le héros, moi, je l'adore. Tu sais, c'est le héros un peu sur, près de la, tu vois, tu sens qu'il est un peu blasé, près de la retraite et tout, près de sa retraite de super-héros, le gars qui n'en fait qu'à sa tête, qui en a rien à foutre, qui est pas là pour faire le show, tu vois, lui à la base, lui c'est le vrai modèle de super-héros, bon, il fait le show parce que bon, pour faire son taf, il a pas le choix, tu vois, il a besoin de ses sponsors pour l'aider, etc. Mais c'est un vrai super-héros dans l'âme, quoi. Sauf qu'il est un peu blasé. Enfin, il s'en prend plein la gueule. En plus, le pauvre, il y a personne qui l'aime. Par exemple, tu vois, t'as des, il y a des cartes à collectionner pour chaque super-héros et tout. Lui, t'as une scène par exemple à un moment donné, t'as tous les autres tas des cartes à collectionner pour super-héros qui sont super bas, tu vois, les gamins ils sont jetés dessus. Lui son tas il est rempli jusqu'à ras-bord, il y a personne qui veut des cartes. C'est vraiment très bien fait.
Voilà, donc ouais bah j'avoue moi j'irai voir ça. Donc quelque chose à rajouter concernant le point culture. Non, rien.
Non, pas. C'est bon.
Je pense que c'est bon.
Donc vous aurez quand même découvert un film et une série, ce qui est quand même pas mal, car il n'y a pas que le jeu vidéo, il ne faut pas l'oublier. Donc, je crois qu'on va clôturer ce podcast. Je rappelle l'information la plus importante, comme ils font dans les JT, Derek ne sera pas distribué en grande distribution.
Non.
Oh, il faut faire une pétition, tout le monde.
Voilà, mais ouais. Il y a la page Facebook, hein. Allez-y,
ouais, mais bon,
allez-y,
la page...
pétition.
Moi, un jour, j'ai aimé la page Facebook de Lady Gaga, c'est pour dire.
Ah oui,
mon
non,
Dieu.
Mon Dieu, oui,
cela
non,
ça. On regarde pas.
Ça ne te pas, on ne te pardonnera pas. Alors ça, quelle honte. Donc, ben voilà, hein, si vous voulez faire des bonnes actions, vous avez compris, il faut donner aux indés, faut permettre à Derek de venir sur les rayons de supermarché pour qu'on se fende encore plus la poire. Et je crois qu'on va terminer sur ce cri dramatique de Monsieur le Tyran.
Jouez à The Witcher 2.
Voilà, on va conclure comme ça. Bon, allez, et à Portal 2 aussi, hein. N'oubliez pas. Donc, bon, ben, à bientôt pour un prochain podcast. Salut!
Salut!
Salut!